Sorte d'exemple, alors qui n'est pas vraiment un exemple, c'est on m'avait offert ça, c'est publié en Allemagne, quoique non, à Tours, à vrai dire, Tours ici. Je pense que c'est. Non, c'est pas Tours. Non, c'est Trèves. Voilà, c'est à Trèves. Et c'est un Nouveau Testament tétraglotte. C'est marqué Novum Testamentum Tetragloton. Voilà. Donc vous avez le grec, le latin, la version allemande et la version anglaise. Donc et la version allemande, c'est celle de Luther, et la version anglaise, c'est celle du King James.
Et la version allemande, elle est en gothique.
Oui, c'est encore plus joli. Et la version grecque est en grec. Alors regardez, comme ça, c'est. Ça, je vous fais passer, ça, c'est amusant parce que ça, c'est un peu l'idée des exemples, mais en quatre colonnes synoptiques. Donc, alors, vous avez apporté des Bibles. Là, c'est la Bible Chouraki. Alors, Chouraki, c'est une Bible traduite par un homme de lettres, disons, juif. Et alors justement, qui a essayé de garder la rugosité de la langue hébraïque. Alors je pense que c'est une Bible, elle n'est pas complète. Enfin, je veux dire, c'est une Bible d'Ancien Testament, ça, non ?
Non, elle est complète.
Ah, il y a aussi la partie...
Oui, il y a le Nouveau Testament.
Ah oui, c'est ça, liminaire pour un pacte neuf. Et le pacte neuf, c'est la Nouvelle Alliance.
Voilà. Voyez. Ah. Les termes sont assez curieux. En
fait. Oui, oui, oui. Ah ben voilà, c'est
certaines mauvaises langues disent qu'en fait, il ne l'a pas traduit.
Ah oui.
Puisque c'est une sorte de calque de l'hébreu.
Ah oui, oui, voilà, il a décalqué. Oui. Alors vous avez une version, donc une version protestante.
Et oui.
Oui, c'est la Bible de Louis II.
Ah oui, oui.
C'est la Bible protestante française.
Oui.
Voilà. Et alors que la Bible catholique française d'autrefois, c'était Crampon.
Oui. Hein,
et alors quelqu'un avait donc Fillon. Ah oui, c'est Bernard à la version de Fillon. Qui est une version plus ancienne et qui est très élégante. Et puis alors là, vous avez... Alors ça, c'est la traduction de qui, celle-là ?
C'est quoi ? Je sais pas, mais elle est belle.
Elle est en quatre volumes, avec des illustrés.
Traduit et annoté par Robert Tamizier.
Tamizier, oui.
Professeur au Grand Séminaire de Rodez.
Oui, voilà. Oui.
Pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament de François Amiot.
Oui, qui est aussi...
Professeur
qui est...
au séminaire de Saint-Sulpice.
Oui,
principalement pour la Suisse.
Pour la Suisse. Donc elle est zwingliste peut-être.
Alsace, ou... Lorraine et Suisse.
Oui, ah, d'accord. Donc c'est... Et puis en plus, ça...
J'amènerai une petite, parce qu'autrement, j'ai une...
Une plus grosse.
La plus grosse d'Ostéron, de 1860. Ouais.
D'accord.
Et c'est la traduction d'origine de 1750-60.
Ah oui, d'accord. Oui, donc une traduction ancienne.
Et certains disent qu'en fait...
Alors, il y a des traductions en langue tchèque aussi.
C'est de l'hébreu ?
C'est calqué sur l'hébreu.
Oui, c'est ça, c'est calqué sur l'hébreu.
Ah oui, alors comment il faut dire implore son pardon en français, ce serait quoi ?
Alchimie, c'est le nom d'un personnage.
Ah bon ?
Ah oui. 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 Non, non, je crois que c'est dans l'histoire de David, ça. Ça doit être dans les rois.
Oui,
ah,
mais c'est de qui les illustrations ? Je regarde ma vie, je vois tout qui me paraît clair. Et puis ici, j'ai l'impression d'arriver dans un autre monde.
Ah, oui, c'est ça, c'est très...
L'allemand et l'anglais.
Je vois comme ça.
Judas.
Ah oui, parce qu'il a pris les noms originaux. En fait.
Oui, ah oui, oui.
Ah ben
oui,
Jésus, c'est Yeshua.
Ah oui, il faut avoir la tradition pour lire la
Bible. Jésus, c'est Yeshua.
Yeshua, oui, c'est ça. Yohanan pour Jean, voilà. Lucas pour... oui, c'est ça, il a décalqué le...
Qu'est-ce que c'est SS
comme...
Sa santé, non.
Alors, PSS, en fait, théoriquement, c'est prêtre de Saint-Sulpice.
Ah,
voilà.
Mais il n'y a pas de P.
Et puis, il y a, sinon, à l'époque, on mettait toujours, c'est un peu comme pour les jésuites et dominicains, on met le petit sigle derrière. Et PSS, il y en a moins maintenant, hein. C'est comme les oratoriens, PO, ou des congrégations comme ça. Il y avait SSS aussi qui était Société du Saint-Sacrement, et comme le père zut, là, Saint-Julien Aymar, là. Donc voilà les, un peu les traductions. On va continuer de regarder, puis je commence à en dire un petit mot. Alors, en France, dans nos traductions modernes, disons modernes contemporaines, la plus connue, donc, c'est la Bible de Jérusalem, comme je vous disais, à partir de qui a été faite vraiment par une équipe extrêmement variée de spécialistes. Il y avait des jésuites, surtout des dominicains, des sulpiciens, des oratoriens, enfin bref, toutes sortes de... y compris des diocésans. Et puis, il y a également celle du chanoine Ostie, dont je vous avais parlé. Oui, elle est donc traduite par un seul et annotée par un autre. Je vous avais raconté l'histoire d'Élie, là, avec les... vous avez raconté l'histoire avec le fromage et la viande, là. Non, enfin avec la viande et le pain. La note de Monsieur Trinquet sur un passage de la...
Qui a été volé par un... Non, ou apporté par les corbeaux.
Oui, c'est ça. Oui, je l'avais raconté. C'était un gars encore plus grand. Donc il y avait une certaine liberté de ton à l'époque qu'aujourd'hui on n'aurait peut-être plus. Hein. Et puis après, on a eu une autre version qui est assez connue, c'est celle, la traduction œcuménique de la Bible, qui a eu son heure de gloire dans les années 70. Et on y en est un peu revenu, parce qu'elle était aussi dans une langue pas très très commode. Voilà. Puis alors les notes sont, paraît-il, pas mal faites, mais il y a eu aussi des choix de traduction pour ne pas froisser telle ou telle confession.
On disait que la Bible de Crampon, c'était la meilleure.
Ah, bah, Crampon, c'est une bonne traduction, oui, qui a été en plus actualisée. Et puis, alors, si on veut aller remonter plus en arrière, il y a le maître de Sacy, par exemple, ou des.
Il y a eu, je crois,
le Fèvre d'État.
Une dizaine d'années, une traduction très. Poétique ou littéraire.
Alors très bizarre. Alors je l'ai aussi. On me l'avait offerte. Oui, voilà, qui a été publiée chez Talendier.
Oui.
Voilà. Et à l'époque, j'avais travaillé pour Talendier. Et alors, résultat, on me l'a offerte. Alors c'est très bizarre parce que c'est en fait des hommes de lettres,
oui, voilà.
Des femmes de lettres, et qui qui n'ont pas fait vraiment des traductions, parce qu'ils ne connaissaient pas tous le grec ni l'hébreu. Oui, oui, oui. Et alors, ils ont pris des traductions et ils les ont arrangées à leur sauce.
Ah, c'est ça.
Voilà. Et donc, je ne sais plus comment ça s'appelle.
J'ai trouvé les origines messianiques. L-R-E-L. En marche. Psaume des louanges.
Ben voilà. Oui, c'est ça. Mais de fait, ce sont les psaumes des montées, oui, c'est ça. Ce sont les graduels, en fait, les psaumes graduels. Et les psaumes des montées, alors qu'il appelle En marche. Ah oui, c'est pas mal, ça.
Chaque fois qu'on traduit la Bible, on part de l'hébreu.
Théoriquement, oui. Enfin, maintenant, les traductions scientifiques, on part de l'hébreu, et même de certains manuscrits plus que d'autres. Autrefois, on traduisait souvent à partir du grec ou du latin. Et là, par exemple, pour cette édition de Talendier, on traduisait même à partir du français. Donc, chacun mettant... Imaginez Claudel, par exemple, Claudel a fait une traduction des psaumes à partir de la Vulgate de Saint Jérôme. Et alors, c'est très amusant. Hein. Il y a tout le langage un peu heurté de Claudel. Alors, malheureusement, il n'a pas traduit tous les psaumes. Il n'y a pas le temps. Mais c'est amusant. Alors, les traductions aussi ont varié en fonction du but recherché. Il ne faut pas dire qu'elles sont toujours vraiment... objectives. Alors, il y a des versions littéraires, élégantes. Par exemple, je pense à Le Maître de Sassy, des gens comme ça. Puis il y a des versions plus prosaïques, en langage courant, justement pour être plus facilement compris des gens, ou encore des traductions très proches du langage du style d'origine. Alors, par exemple, pour certains textes du Nouveau Testament, ça sera un peu avec des fautes de français, c'est en presque. Et puis, d'autres passages, ça sera au contraire très châtié. Pour refléter un peu la diversité des langues utilisées, enfin des langues, plus exactement des langages utilisés. Mais le problème, vous voyez, par exemple, avec la Bible de Jérusalem, qui a été traduite par des normaliens ou des agrégés de lettres classiques, en fait, ils ont eu tendance un petit peu à fondre tout dans une langue élégante, hein, vous voyez. Alors que, par exemple, il y a des textes, les textes de Saint Jean sont un peu heurtés, quoi. Voilà. Et alors, la Bible de Chouraki, par exemple, ce qui est amusant, c'est que on goûte, ou on ne goûte pas, on est confronté au génie, en quelque sorte, de la langue hébraïque, qui est très concrète et un peu heurtée. Hein. Ils n'ont pas la même syntaxe, pas les mêmes racines, tout ça. Par exemple, Martin Buber et puis Franz Rosenzweig ont donné des versions allemandes de la Bible juive et particulièrement orientées vers leur coreligionnaire, en fait, qui essaie de reprendre les allitérations de l'hébreu en allemand, tout ça. Alors, il y a aussi des traductions idéologiques. Alors, je vous parlais un peu de la TOB tout à l'heure, parce que dans la TOB, l'idéologie, ça consiste à gommer les différences. On ne va pas fâcher les gens en parlant de la Vierge Marie, par exemple. Bon, des choses comme ça. Parmi les falsificateurs même des Écritures, on peut citer, par exemple, les témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah vont systématiquement éliminer tout ce qui les gêne dans leur doctrine. Vous savez qu'il y a des formes, il y a des Bibles de... Par exemple, des adventistes où on rajoute en plus les livres de leur fondateur dans la Bible parce qu'ils croient que c'est inspiré, etc. Et puis, on peut même citer, je m'étais amusé à citer une version politiquement correcte de féministes anglo-saxonnes qui remonte à 1995. Alors, ça donne ça. C'est un article un peu ironique. Sur cette Bible anglo-saxonne. Mais vous savez, il y a aussi des versions noires de la Bible. Donc il faut pas stigmatiser les Noirs, il faut pas stigmatiser par exemple les Chinois, il faut pas stigmatiser les féministes, etc. Alors là, ça donne, enfin les femmes, disons. Je vous cite cet article. Oui. Il fallait d'abord, conférence de Pékin oblige en 95. Supprimer toute référence sexiste. Plus question que les femmes soient soumises à leur mari. Elles sont confiées. Pour que Dieu ne soit plus désigné au masculin, le pronom « il » a disparu. En conséquence, l'expression « le fils de l'homme » devient « celui qui est humain ».
C'est toujours celui.
Voilà. Et la prière que nous a enseignée Jésus commence par cette invocation « Notre Père, Mère qui est aux cieux ». Alors, après... S'avisant que les références à la main droite de Dieu, à la droite d'Extera Domini, pouvaient gêner les gauchers. Et alors, l'auteur de l'article, mais et les gauchistes, les traductions les ont systématiquement transformées en la main puissante de Dieu. Ils se sont également efforcés de réduire le nombre des références à Dieu comme au Seigneur pour se démarquer d'un passé odieux où les seigneurs formaient le groupe dominant. Il va sans dire que le racisme et l'antisémitisme ont été impitoyablement traqués. Plus question d'assimiler l'obscurité, le noir, au mal, ou de permettre à saint Paul d'affirmer que ses compatriotes ont tué Jésus le Seigneur. Toute implication du peuple élu est remplacée par ceux qui ont mis à la mort le Seigneur Jésus et les prophètes. Donc, vous voyez, c'est véritablement expurger la Bible de tout ce qui... Donc, on a vraiment la version politiquement correcte. C'était une traduction anglaise. Les Anglais ont toujours un peu d'avance sur nous dans ce domaine. Oui, oui, chez les néo-anglicans, enfin, chez les, c'est une traduction récente à usage des protestants anglais, où il fallait donc gommer tout ce qui pouvait fâcher. Donc, rien contre les juifs, rien, pas tout, pourquoi pas rien contre les païens, parce qu'après tout, bon, en tout cas, rien contre les femmes, rien contre les diversités visibles, non, les minorités visibles, voilà, etc., etc. Donc, on arrive finalement à un langage très complexe, parce qu'on remplace tout par des euphémismes, par des...
Les tirades de Paul sur les péchés contre...
Ah oui,
oui. Alors là, ça, je ne sais pas, mais il faudrait regarder qu'est-ce que deviennent toutes les tirades de Paul, justement, sur... Oui, voilà. Eh bien, je ne sais pas. Oui, les tirades sur les fornicateurs, les sodomites, les trucs et les machins. Oui, bah, il faudrait regarder dans cette version anglaise des années 90, protestante, et qui s'est efforcée d'être admissible. Alors, ça suppose de la réactualiser tous les 10 ans, puisque il y a des minorités visibles qui émergent tous les 10 ans de l'anonymat et qui deviennent aussitôt très chatouilleuses et susceptibles sur leurs droits.
Est-ce qu'il y a des bibles véganes ou antispécistes? Bah,
écoutez, justement, Bernard, c'est très... Alors, là, justement, dans les lectures de la forme ordinaire, on a en ce moment... On avait Dieu qui donne à manger l'herbe de la terre à tous les animaux et aux hommes aussi. Et là, justement, dans la lecture de ce midi, avec Noé, on rappelle que après la chute, on mange plus d'herbe, mais l'homme doit terroriser les bêtes. Hein, c'est enfin d'être les bêtes le craindront parce qu'il les mangera. Alors maintenant. Je pense qu'on risque d'avoir une interprétation qui permettra à la Bible d'être condamnée par les véganes, hein, parce que bientôt on va dénoncer la Bible comme étant comme étant un ouvrage qui...
Les véganes également, hein, si vous avez quand même vu que les insectes sont en train de disparaître. Ouais. Pourquoi ils disparaissent? Pour que les véganes puissent bouffer leur petite salade, là, on tue tous les insectes.
Ah bah oui. Ah oui, c'est ça, les insectes. Mais c'est très mal, parce que les insectes, ils ne devraient pas les tuer, c'est des bêtes, c'est des animaux.
C'est du vivant. Pour les salades, pour cultiver les salades, des trucs,
c'est ça. Au nom du respect des animaux, on élimine la limace, alors. Ah, ça, alors. La limace qui fond, comme dit un psaume. La limace. Alors attendez, c'est la limace qui fond, enfin qui se défait. Je crois que c'est le verbe fondre, comme neige au soleil, quoi. Bon. Alors voilà un peu donc pour les traductions. Vous voyez qu'elles elles répondent à des. Il faut se dire que quand on a une Bible dans la main, on a quand même le résultat de choix, enfin des choix multiples. Donc le choix de l'orientation un peu de cette Bible, de son appartenance confessionnelle, du but qu'elle recherche, être populaire, pas populaire, élitiste ou pas. Ensuite, sur quelle langue elle a été traduite, à partir de la langue, sur quel manuscrit on a privilégié. Donc, en fait, vous voyez que, moi je dis, la Bible, c'est un peu comme la théorie quantique, c'est-à-dire, dans la théorie quantique, on a des probabilités sur le fait de savoir si une particule est là ou pas là. Et en fait, on a une probabilité de savoir si c'est vraiment ce que Dieu a voulu dire. Parce que, voilà, il y a pour un verset, vous avez 10 possibilités, y compris le fait de ne pas le trouver dans certains manuscrits. Et voilà. Donc, on a une... Enfin, du coup, c'est assez intéressant parce qu'on ne peut pas tomber dans le fondamentalisme quand on sait ça. On se dit, bah, quand on a une version, il faut comparer avec une autre. Et puis éviter, en tout cas, tous les falsificateurs. Parce que là, je vous dis, toutes les sectes protestantes du XIXe siècle, là, elles en ont rajouté, hein, ou elles en ont retranché.